France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
C'est le seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine. L'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, regroupe 300 unités réparties dans les hôpitaux et les universités, ce qui représente pas moins de 1200 équipes de scientifiques de toutes nationalités. Des équipes à l'origine d'immenses découvertes comme les ultrasons, l'imagerie, la première fécondation in vitro, la radiothérapie contre le cancer, la première greffe de peau, l'identification du VIH, le virus du sida, la thérapie génique, entre autres. Cet organisme public a été ébranlé par la crise sanitaire et les problèmes budgétaires et aujourd'hui, c'est toute la recherche mondiale et donc française qui est menacée par les déclarations de l'administration Trump. Quelles sont ces menaces? Quelles solutions pour protéger les chercheurs et de ce fait les malades qui attendent de nouvelles découvertes? Comment se préparer au mieux si une nouvelle pandémie survenait et où trouver les finances? Pour en parler, nous sommes avec le président de l'INSERM. Professeur Didier Samuel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, chercheur, professeur d'hépatologie à l'Université Paris-Saclay. Vous avez été directeur médical du programme de transplantation hépatique de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif au sein de ce même hôpital, président de la conférence des doyens de médecine. Vous présidiez aussi le comité national de coordination de la recherche. Depuis 2005, vous dirigez une unité de recherche au sein de l'INSERM avant d'en prendre la présidence en 2023, soit 3 ans après la crise sanitaire liée au Covid qui a marqué un tournant à l'INSERM. On va y venir tout de suite. Je n'ai pas oublié trop de titres parce que vous en avez beaucoup, hein, là ça va.
C'est bon.
C'est l'essentiel pour l'instant.
Tout à fait.
On va déjà essayer de connaître cet organisme public qui a été créé en 64. Aujourd'hui, c'est quoi son budget et qui le finance?
C'est l'État qui finance. Le budget est de 1,2 milliard, dont 700 millions qui vient directement de l'État. 500 millions viennent des contrats obtenus par les chercheurs, soit à l'Agence nationale de recherche, qu'on appelle l'ANR, soit via les programmes d'investissement tels qu'on appelle France 2030 actuellement, ou l'Europe. Et donc, 500 millions sur 1,2 milliard, ça traduit le dynamisme des équipes de chercheurs INSERM, capables de générer des contrats.
Oui, justement, j'ai cité quelques-unes des découvertes incroyables. Dans le domaine des découvertes, des publications, l'INSERM se place bien en Europe?
Oui, l'INSERM se place bien. Il est le premier publiant en Europe dans le domaine de la santé. Il est aussi très présent aussi sur la valorisation et sur la dépôt des brevets. Le premier dans le monde pharma, le quatrième dans les biotechnologies. Oui, l'INSERM se positionne très bien et puis avec un niveau de publication qui est très au-dessus de la moyenne.
Alors, il y a d'autres organismes de recherche qu'on connaît bien, comme le CNRS ou Pasteur. C'est quoi vos liens? Vous travaillez comment avec eux?
Ben, nos unités de recherche sont mixtes, toujours avec une université. Donc, comme vous l'avez dit, il y a 300 unités de recherche. Et on a une cinquantaine d'unités qui sont en mixité avec le CNRS. Et on a une dizaine d'unités qui sont en mixité avec l'Institut Pasteur. Et on a, d'autre part, on a créé en plus une agence récemment au sein de l'INSERM, une agence de programmation de la recherche en santé. Et, autour de la table, il y a le CNRS, Pasteur. Et on a, des relations qui sont presque permanentes, hein, avec, et le CNRS, et Pasteur, et puis d'autres, les CHU, les universités.
On connaît bien le travail de recherche de l'INSERM. On sait moins qu'il a un rôle très important en santé publique lors des crises sanitaires, de surveillance, d'alerte, de suivi.
C'est quelque chose. D'abord, nous avons 9 instituts thématiques scientifiques au sein de l'INSERM, dont un qui est en santé publique. Un des rôles, et aussi c'est un point que... Une des inflexions que j'ai voulu donner à l'INSERM, c'est aussi d'être plus réactif aux enjeux sociétaux. Et je donne quelques exemples, changement climatique et santé, exposition environnementale et santé. Tout ceci est aussi des questions épidémiologiques très fortes. Pourquoi il y a plus de cancers chez les jeunes? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a plus de cancers du pancréas? Et donc, le rôle de l'INSERM aussi et des équipes de santé publique, c'est essayer de répondre à ces questions et d'engager de la recherche dans ce domaine.
Alors, la crise de 2020, la crise du Covid, a été, il faut bien le dire, un révélateur de certaines faiblesses ou dysfonctionnements dans la recherche en général. Vous êtes arrivé à la tête de cet institut en 2023 et peu avant, la Cour des comptes avait appelé, dans un rapport quand même sévère, à une évolution, il disait, radicale de l'INSERM. Le Covid a montré quoi, en fait?
Le Covid a montré d'abord qu'on n'était pas préparé de façon globale, hein, quand même mondiale, à une épidémie de ce type. Le Covid a montré pour la première fois qu'un virus pouvait paralyser le monde. Et le Covid a aussi montré pour la France que il y avait d'abord un sous-investissement en recherche, peut-être aussi des erreurs stratégiques. On n'avait pas vraiment de recherche sur le coronavirus. On n'avait pas les recherches sur les ARN messagers. Il y en avait, mais elles n'étaient pas.
Donc le vaccin qui a été développé pour le Covid.
Elles n'étaient pas au niveau où on pouvait l'attendre. Donc il y a aussi à la fois des erreurs stratégiques, mais il y a aussi un sous-investissement en recherche en amont. Et la recherche, il faut investir si on veut avoir des résultats. Et donc on paye un peu, je dirais, le sous-investissement, on paye beaucoup même, le sous-investissement pendant très nombreuses années.
Parce qu'il y a eu des épidémies avant cela, il y avait le chikungunya, le Zika, Ebola, qui avaient été bien contrôlés. On s'est un peu relâché, on s'est dit qu'une nouvelle pandémie n'allait pas arriver tout de suite, on l'a pas vu venir.
Alors, il y a eu des épidémies, même là, je peux remonter au VIH, hein, qui a été une épidémie qui a entraîné une grosse mobilisation. Mais la différence, c'est que l'épidémie du VIH, ou même celle que vous évoquez, comme le chikungunya, n'ont pas eu la violence de l'épidémie Covid, qui est un virus respiratoire. Et le virus respiratoire fait que des millions de personnes, avec très contagieux, à la fois, qui combinait deux actions, à la fois la contagiosité très forte et à la fois la gravité, notamment de la première vague, le Covid natif. Et donc on n'avait pas, une infection d'autant de personnes aussi rapidement et aussi violente. Oui.
Et vous dites que pour répondre à ces défaillances de l'époque, il faut réinvestir dans la recherche en biologie santé. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui nous manquait ?
D'abord, ce qui nous manquait, c'est globalement un investissement global dans la recherche qui était toute confondue, trop faible. Deuxièmement, il faut, j'ai toujours milité pour qu'on sanctuarise au sein du budget recherche un budget pour la biologie santé qui justement est focalisé sur les sciences de la vie, la santé, parce qu'on voit que la santé c'est un axe en soi. Et je comprends tout à fait qu'on mette de l'argent sur le développement des fusées ou de la physique, mais le coût n'est pas le même et donc on doit avoir aussi des priorités. Et une priorité stratégique pour moi est la recherche en santé et en biologie santé, qui je pense a été un peu oubliée, mais qui a été refinancée après le Covid.
Et en développant des médicaments ? En allant jusqu'au bout de la chaîne ?
Alors si on va jusqu'au bout de la chaîne, je pense qu'en France, on a une recherche académique qui est de très bon niveau, qui a besoin en effet d'être réinvestie. Mais je pense que côté médicaments, on a un point de faiblesse, c'est-à-dire une difficulté à translater ce qu'on appelle la recherche académique en médicaments. Ce que font très bien les Américains. Mmh. Et les Américains, jusqu'à présent, dominent le monde sur ce domaine. Et la France, c'est un vrai point faible. Je dois dire que depuis plusieurs années, il faut le dire, en dehors de toute contingence politique, il y a eu un vrai réinvestissement en recherche via la loi de programmation de la recherche, via les investissements France 2030, avec en plus depuis le Covid un volet santé et puis aussi une vraie volonté aussi maintenant de, à la fois au sein d'organismes comme l'INSERM mais aussi le CNRS, mais c'est-à-dire de pousser les chercheurs à valoriser leur recherche, c'est-à-dire déposer des brevets, des licences, aller vers les start-up.
On est trop timide ?
Oui, on était trop timide et on a besoin aussi, c'est pas seulement le monde de la recherche, c'est aussi le monde des investisseurs qui sont trop timides vis-à-vis de l'investissement en recherche en santé et en recherche vers le médicament.
Et à votre arrivée, un autre de vos grands chantiers, c'était de recruter de jeunes chercheurs dans un contexte qui était quand même pas évident.
Le contexte n'était pas évident parce qu'en effet, on avait sous-valorisé les chercheurs avec question salariale, c'est pas un secret. On n'était plus au niveau même de nos voisins les plus proches, Grande-Bretagne, Allemagne, même Espagne et Italie. Donc il y a eu ce qu'on appelle la loi de programmation de la recherche qui a été mise en place en 2020, qui a vraiment revalorisé les salaires des chercheurs et les primes des chercheurs, aussi des ingénieurs et des techniciens.
Ça a permis de recruter vraiment ?
Oui, ça a permis de recruter. On a fait aussi des actions spécifiques, comme il y a une création de postes qu'on appelle les chers professeurs juniors, qui sont en fait qui attirent des chercheurs entre chargés de recherche et directeurs de recherche, et avec un welcome package de 200 000 euros pour installer leur recherche.
Welcome package, j'aime bien ça.
Oui, welcome package qui permet d'acheter du matériel, de payer aussi un doctorant, un post-doctorant, et ça, on voit que ça a une attractivité assez forte. avec presque 50% qui sont soit des chercheurs de nationalité étrangère, soit des chercheurs français qui sont dans un labo à l'étranger.
Vous avez évoqué aussi effectivement le volet santé ouvert dans le cadre de France 2030, avec des programmes notamment sur les vaccins, sur les maladies inflammatoires, les maladies neurodégénératives. On a effectivement l'impression quand même d'un souffle là qui se lance.
Alors, ça a été un grand plus ces dernières années. J'aimerais que ce plus persiste dans le contexte budgétaire actuel, mais ça a été un grand plus ces cinq dernières années, avec en effet, dans le volet France 2030 Santé, des actions comme la création d'un IHU, d'Institut Hospitalo-Universitaire, de réseaux hospitalo-universitaires, et aussi de gros programmes de recherche, qu'on appelle les PEPR, Programmes Équipements Prioritaires de Recherche, et on en a actuellement 8 qui sont en cours, 4 ou 5 qui vont démarrer. C'est des budgets quand même de 50 à 80 millions d'euros sur 5 ou 7 ans, et ça permet aussi de faire une recherche un peu différente, plus stratégique et sur des thématiques comme le numérique en santé, la santé de la femme, les maladies infectieuses émergentes justement pour essayer de prévenir le Covid, la biothérapie, la psychiatrie de précision comme exemple de PEPR que l'INSERM pilote ou copilote.
Effectivement, donc pour tout ça, il faut maintenir ce budget. Il y a des sénateurs assez récemment qui veulent revenir sur cette loi qui garantissait ces financements. Ça vous inquiète ?
Ah oui, ça m'inquiète beaucoup. En effet, je pense que tout le monde n'est pas convaincu de l'importance de la recherche, mais je retourne toujours l'argument en disant il n'y a pas de progrès médical sans recherche. Aucun médicament ne tombe du ciel comme ça, et aucun progrès médical n'est fait sans recherche en amont. Parfois, le lien entre recherche et développement du progrès il prend 10-20 ans, mais il faut être bien conscient de ça. Et c'est aussi un enjeu pour la souveraineté de la France et la compétitivité de la France à l'Europe et à l'international.
Avant qu'on devienne à l'international et ce qui se passe outre-Atlantique, un mot sur un engagement qui est important de l'INSERM dans le contexte volontiers complotiste actuel. Hein. C'est la lutte contre la désinformation médicale, notamment sur les réseaux. Est-ce que, avant de dire ce que vous faites, vous pouvez nous rappeler les dangers pour notre santé de cette désinformation, qu'on comprenne bien ?
Le danger, c'est par exemple de dire « soignez votre cancer avec du jus de tomate ». Donc le risque à ce moment-là, c'est que pendant ce que vous suivez ce genre de pratique, votre cancer il grossit et vous perdez des chances de vie, clairement. Donc
il y a un danger pour soi-même, mais aussi pour les autres, avec les vaccino-sceptiques, par exemple.
Il y a un danger pour soi-même, il y a un danger pour les autres. Et il y a aussi un phénomène dont il faut tenir compte, c'est les réseaux sociaux qui ont amplifié le phénomène. C'est-à-dire que maintenant, le message négatif passe par des réseaux qui sont vus par des millions de personnes. Et donc, l'impact peut être très fort. Et donc, il faut être prêt à réagir à ce type d'informations qui peuvent être extrêmement dangereuses.
Alors justement, pour aider le grand public à s'y retrouver dans les infos, l'INSERM a créé Série Canal Détox en 2018. C'est quoi ?
En fait, c'est de répondre justement à des informations qu'on considère comme fausses, hein, fake news. On mobilise des chercheurs qui, sur le site de l'INSERM, mettent en place des réponses à des questions, à des fake news qui sont et donnent donc l'accès. Ce qu'on veut développer dans le grand public, c'est l'esprit critique. On a une information, mais on ne la prend pas brute, mais on se renseigne et on offre cette possibilité de se renseigner. Et je dirais, comme ça va très vite, il faut le faire le plus en temps réel possible pour être réactif face à la désinformation. Et donc, cette série Canal Detox a été commencée avant que j'arrive et elle est actuellement poursuivie. Et puis, nous avons aussi une cellule qu'on appelle Riposte, une centaine de chercheurs qui sont prêts aussi à répondre, immédiatement, en temps réel, à une information qui circule, qui nous paraît dangereuse, une fake news.
Alors, justement, on va aller un peu outre-Atlantique, puisqu'on parlait de fake news et notamment des propos que tient souvent le ministre américain. Depuis le 20 janvier 2025 et le second mandat de Donald Trump, les décrets ou intentions sur la santé et son financement se succèdent tous plus inquiétants les uns que les autres. Alors, en ce qui concerne la recherche, par exemple, l'équivalent de l'INSERM, le NIH, aux États-Unis, a un budget de 40 milliards de dollars. Vous avez dit, nous, c'est 1,2 milliard. Il prévoit 45% de réduction, la disparition de 2/3 des instituts et une coupure de la coopération internationale. J'aimerais déjà qu'on comprenne ça parce qu'on sait peu que l'engagement des États-Unis dans le domaine de la santé mondiale est massif et absolument indispensable.
On vit depuis, je dirais, la Seconde Guerre mondiale sur la domination américaine et avec une recherche américaine extrêmement attractive. énormément de chercheurs français font leur thèse, ce qu'on appelle leur thèse de doctorat d'université en France, mais beaucoup font leur post-doc aux États-Unis dans des labos américains. Mmh. Ils restent 2, 4 ans, 6 ans, et puis ils reviennent en France, pas tous. Mais et la recherche américaine a toujours été extrêmement forte. Et il y a toujours eu les Français, où, par exemple, vont au congrès américain. Je dirais que l'Europe s'est aussi augmentée quand même ces dernières années, et donc est devenue une compétitrice des Américains. Ce qui est nouveau, c'est de voir l'Amérique, je dirais, s'auto-attaquer sa propre recherche et sa propre force, et ce qui d'ailleurs stupéfie un peu le monde entier, parce que là on rentre dans une autre ère.
Effectivement, là, les menaces, par exemple, de coupure de la coopération internationale, ça pourrait avoir quel impact sur notre recherche, donc pour les patients qui attendent des découvertes, bien sûr, ça peut avoir des gros impacts.
Alors, c'est plus des menaces, c'est des réalités. C'est-à-dire que les programmes internationaux avec le NIH sont tous arrêtés. Les programmes avec USAID qui étaient notamment sur le sud, c'est-à-dire Afrique, Asie, notamment sur les pathologies infectieuses comme le VIH, la tuberculose, dans lequel notre agence, l'ANRS, qui est maladie infectieuse, qui est l'agence justement contre les maladies infectieuses de l'INSERM, travaillait beaucoup avec eux. Tous ces programmes sont arrêtés. Les autres programmes aussi...
avec des conséquences
financières, oui.
On estime sur la santé des personnes atteintes de VIH... qui est assez dramatique.
Oui, il y a un risque de résurgence du... Parce qu'en fait, quand on dit... Parce que le discours parfois américain, c'est privilégions la santé américaine. Mais ce qu'on voit bien, c'est que les virus qui sont présents en Afrique, en Asie, ils ne connaissent pas les frontières. Donc si on les laisse réapparaître, on laisse apparaître des variants qui risquent aussi d'infecter les populations américaines, européennes. Et donc, ce travail qu'on fait dans d'autres pays est aussi important pour nous. Et donc, il y a un risque, en effet, de résurgence, de tuberculose, de poliomyélite, de VIH, et donc dans ces pays, oui.
Comment on comprend, honnêtement, avec une puissance pareille, j'entends bien que vous disiez que on se concentre sur les Américains, mais enfin, toutes les recherches indispensables auxquelles participaient les États-Unis, et ça concerne la population américaine, toutes les maladies. Qu'est-ce qui peut expliquer ça aujourd'hui ?
D'abord, il y a des thématiques qui sont privilégiées, qui ne sont plus considérées comme prioritaires aux États-Unis actuellement, hein, notamment les maladies infectieuses, la recherche sur les vaccins, des recherches sur le climat, changement climatique et santé, qui n'est pas reconnu, le changement climatique.
Oui. Les recherches aussi... la position de Donald Trump sur le changement climatique.
Oui, les recherches aussi sur les différences hommes-femmes, qui sont des réalités, hein, et qui sont pas reconnues. Donc, ce qui fait qu'il y a des thématiques qui sont abandonnées, mais il y a aussi une attaque globale contre la recherche médicale en soi. Vous l'avez dit, il y a une volonté de réduire le budget. Le budget de USAID a été... complètement stoppé. Le CDC, c'est-à-dire Center for Disease Control, qui était la tour de contrôle des épidémies dans le monde, Atlanta, son budget a été réduit de 35%. Et c'est le CDC qui avait détecté les premiers cas de sida dans le monde. Et le NIH, qui est vraiment le super INSERM aux États-Unis. En effet, il y a une volonté de réduire son budget de 45%. Mais pour l'instant, le Congrès n'a pas validé ça. Mais par contre, tous les programmes internationaux avec l'Europe, et tous les programmes que l'INSERM a avec le NIH sont actuellement stoppés complètement.
Autre annonce faite assez récemment qui est très inquiétante, on va bien expliquer parce que c'est un peu complexe. On avait confié, durant cette partie très confiante avec les États-Unis depuis des années, la base de données de tous les articles publiés dans le monde, ça s'appelle PubMed. Et aujourd'hui, le risque, c'est celui de la disparition de ces données. Vous pouvez nous expliquer ça parce que c'est un petit peu complexe de se dire qu'on peut ne plus avoir accès à certaines données alors que des publications n'ont pas été forcément américaines.
En fait, il y a beaucoup de bases de données qui sont basées aux États-Unis. Alors, la plus connue, c'est ce qu'on appelle PubMed, c'est-à-dire chaque chercheur, chaque médecin qui publie un article dans le monde est référencé dans cette base PubMed. Donc, quand vous recherchez, par exemple, un article récent sur le Covid ou sur le cancer du pancréas, vous cherchez dans cette base les articles qui correspondent. Et donc, pour l'instant, cette base n'est pas attaquée, mais il y a quand même des menaces. Parce qu'en effet, il y a des menaces à la fois volontaires, est-ce que cette base va être protégée, et puis des menaces plus récentes techniques comme le shutdown américain, puisque c'est qui fait que actuellement on commence à avoir certains articles qui ne sont pas référencés, et donc il y a une vraie menace, et donc on essaye actuellement de faire une base miroir en Europe. Mais il y a aussi d'autres bases de données génétiques, génomiques, qui sont basées aux États-Unis et sur lesquelles on est très vigilant parce qu'en effet on avait l'habitude de travailler avec les US, je dirais, de façon confiante.
Et puis l'offensive du président a une autre conséquence, bien sûr, c'est que des chercheurs vont tenter de quitter le pays pour continuer leurs travaux. Est-ce que vous attendez à ce que la France reçoive beaucoup de chercheurs américains ?
Alors, il y a des chercheurs qui commencent à taper à la porte. Il y en a déjà qui sont arrivés, mais c'est encore un flux progressif. Mais il y a quand même plusieurs dizaines de chercheurs dans différentes disciplines, soit américains, soit des chercheurs européens ou français qui sont depuis longtemps aux États-Unis, qui souhaitent quitter les États-Unis pour pouvoir faire leurs recherches. La France a mis en place, la France et l'Europe ont mis en place un programme qui s'appelle Choose Europe for Science ou Choose France for Science. Il y a 500 millions qui a été mis au niveau de l'Europe, 100 millions qui a été mis au niveau de la France, et on est en train au niveau de l'Agence nationale de recherche de retenir des dossiers de chercheurs qui vont aller dans nos institutions. Donc nous, on en a à l'INSERM actuellement. On a des dossiers qu'on porte, mais il y en a aussi dans des universités, il y en a aussi au CNRS.
Alors bien sûr, pour faire venir ces chercheurs, il faut de l'argent. Il y aurait une aide européenne, je dis il y aurait, de 500 millions d'euros. Pour la France, le 5 mai dernier, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de débloquer 100 millions d'euros supplémentaires. Vous réagissez comment ?
C'est bien, mais ce sera insuffisant. C'est-à-dire, et c'est une vraie problématique, parce que, comme vous le savez, il y a un contexte budgétaire très contraint, et donc on est amené à faire des choix, et moi je pousse bien sûr pour qu'on maintienne, je dirais, le budget de la recherche, aussi la capacité à maintenir l'attractivité de la recherche, voire à la développer, surtout qu'on est dans un enjeu stratégique, puisqu'il y a un vide qui se crée actuellement avec le désengagement américain. Le risque, c'est que ce vide soit remplacé par les Chinois, par exemple. Et donc, il est important que l'Europe soit présente. Et donc, dans les choix budgétaires, c'est quelque chose de majeur.
Ça veut dire que l'Europe alliée, vraiment toute l'Europe alliée, on peut combattre, on peut arriver au niveau du budget américain ?
Non. La réalité, c'est le budget du, vous l'avez dit, le budget du NIH est de 48 milliards de dollars par an. Ce qui a été annoncé est 600 millions sur 3 ans. Donc on n'est pas au même niveau. Par contre, je pense que c'est important qu'on essaye de faire un effort supplémentaire, mais il est important de faire un effort, oui.
Et est-ce que l'Europe vous paraît prête à faire vraiment une Europe de la santé, une Europe de la recherche? On s'entend assez bien pour ça?
Oui, on s'entend bien là-dessus, et d'ailleurs, c'est un peu technique, mais on est en train de travailler sur le futur, ce qu'on appelle programme cadre européen, qui va démarrer en 2028, et justement, nous sommes impliqués, notre organisme, d'autres, dans la réflexion sur qu'est-ce qu'on met dedans au niveau recherche. Les premières infos qu'on a, c'est que le budget consacré à la recherche au sein de l'Europe sera augmenté, significativement, ce qui est un bon point, avec aussi un lien avec ce qu'on appelle la compétitivité, c'est-à-dire l'innovation, justement, dont vous avez parlé au départ, c'est-à-dire la capacité à aller vers du médicament, vers des objets concrets. C'est un élément important, et je pense que l'Europe, oui, a compris cet enjeu.
On continue à parler recherche avec notre chronique d'Alexandra Delbault avec Science, qui s'intéresse aux effets du chlordécone sur la fertilité, l'exposition à ce pesticide allongeant la durée pour concevoir un enfant. On écoute tout de suite, vous réagirez après.
Le chlordécone perturbe-t-il la fertilité ? Le chlordécone, c'est un insecticide utilisé aux Antilles entre 1972 et 1993 pour tuer le charançon du bananier. Et même si cela fait plus de 30 ans qu'il est interdit, sa dégradation est lente et il persiste dans l'environnement. La population locale est donc exposée encore aujourd'hui à ce pesticide par la consommation d'aliments contaminés. La responsabilité de l'État français est par ailleurs maintenant établie parce qu'il a renouvelé l'autorisation de ses épandages malgré les preuves scientifiques sur sa toxicité. On sait que c'est un perturbateur endocrinien, un neurotoxique. Il est reconnu comme cancérogène possible depuis 1979. C'est la terminologie employée par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui n'a pas actualisé sa position depuis lors. Mais l'augmentation du risque de cancer de la prostate, par exemple, est bien avérée. Et plus récemment, des études commencent à pointer un risque pour la fertilité humaine. Charlie de Varenbourg est chargé de recherche à l'INSERM, dans l'équipe Elixir, à l'Institut de recherche en santé, environnement et travail à Rennes.
C'est vrai que la fertilité féminine commence à être pointée du doigt, mais c'est principalement lié à des études qui étaient réalisées chez l'animal, notamment chez la rate, qui montrait une réduction de la fertilité avec, par exemple, des changements dans les comportements d'accouplement ou dans le nombre de naissances obtenues chez la rate, qui pouvait être expliqué par une réduction des niveaux de certaines hormones, par exemple. Et puis, il y a d'autres études qui ont été réalisées aussi chez la caille, par exemple, qui montraient aussi des associations suggérant une altération de la fertilité chez ces animaux. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu d'études épidémiologiques qui montraient une association entre le chlordécone et une diminution de la fertilité féminine.
C'est donc avant tout un faisceau d'indices chez l'animal, mais certaines études chez l'humain pointent également des effets lors de la grossesse ou de l'enfance. On sait que le risque de donner naissance à un enfant prématuré augmente avec l'exposition au chlordécone et que ce même enfant a plus de risques de présenter à 7 ans une diminution des capacités intellectuelles et des difficultés comportementales. On a donc des arguments non négligeables, mais jusqu'à présent, la fertilité en tant que telle n'avait pas été étudiée chez l'humain. C'est ce qui vient combler cette nouvelle étude parue dans Environmental Health, qui a regardé si l'exposition au chlordécone pouvait affecter le délai pour concevoir un enfant. C'est donc une nouvelle étude, mais elle est basée sur des anciennes données provenant de la cohorte mère-enfant Timoun collectée entre novembre 2004 et décembre 2007. Un peu plus de 600 femmes enceintes en Guadeloupe pendant leur visite de grossesse ont répondu à un questionnaire dont une restait encore inexploitée pour devenir enceinte de 7 enfants. Combien de temps vous a-t-il fallu ? En parallèle de ces questions, au moment de la naissance, un prélèvement de sang de la mère a été réalisé pour déterminer le niveau d'exposition à ce pesticide. Et résultat, le délai de conception est allongé pour les femmes les plus exposées au chlordécone.
Finalement, on a observé cette association après avoir classé les femmes en fonction de leur niveau d'exposition. Donc on les a découpées en 4 groupes, avec les femmes les moins exposées, les femmes plutôt dans la moyenne basse d'exposition, les femmes dans la moyenne haute et les femmes les plus exposées. Et en fait, on observe que les femmes qui sont dans nos classes d'exposition moyenne, haute et fortement exposées ont donc cette diminution de l'ordre de 25% de probabilité d'obtenir une grossesse par rapport aux femmes qui sont, elles, classées dans la catégorie des moins exposées. En fait, c'est vrai que c'est difficile à interpréter ce pourcentage, mais il faut se dire que ça représente un allongement d'environ un mois à un mois et demi. C'est vrai qu'au niveau individuel, pour une femme, un allongement d'un mois et demi, c'est peut-être pas si important, mais au niveau scientifique, c'est statistiquement significatif et cliniquement pertinent.
Ce que vous avez entendu, c'est également que la comparaison a été faite non pas avec un groupe contrôle, mais avec le groupe de femmes qui présente le taux le plus bas d'exposition. Et c'est important parce que prendre un groupe contrôle, un vrai groupe contrôle, en France métropolitaine par exemple, chez des femmes absolument pas exposées à ce pesticide, c'est le risque de comparer ce qui n'est pas comparable à cause de caractéristiques génétiques et socio-économiques très différentes. Un autre détail qui a son importance, la fertilité, c'est toujours à deux. Ici, seules les femmes ont été interrogées. On pourrait se demander si la fertilité masculine entrerait en jeu, mais jusqu'ici, la littérature scientifique ne montre rien du côté des hommes. Ce serait donc bien la fertilité féminine qui serait perturbée. L'enjeu est de comprendre maintenant pourquoi, car cette publication révèle une corrélation et pas une causalité. Il faudra de nombreuses autres études pour comprendre si le chlordécone agit directement sur la fertilité. Une nouvelle étude a d'ailleurs débuté en Guadeloupe en janvier 2024. Elle se concentre sur les femmes engagées dans un parcours de procréation médicalement assistée, de PMA, et les inclusions se poursuivront jusqu'en février 2026.
Professeur Didier Samuel, Inserm travaille sur le chlordécone ?
Oui, nous avons une équipe de recherche en Guadeloupe, puisque, comme ça vient d'être dit, c'est un problème très majoritaire aux Antilles, dû au fait que le chlordécone a été utilisé dans les plantations de bananes pour protéger les... Mais ce qu'on n'avait pas envisagé à l'époque, c'est en fait que la chlordécone persiste dans les sols, et donc il y a une toxicité, il y a un risque de cancer de la prostate, et puis comme il y a des questions sur la fertilité, et puis d'autres questions aussi. Et ça rejoint aussi, un enjeu plus important, qu'on appelle l'exposome, l'exposition à des produits divers. Donc il y a le chlordécone qui est un exemple, mais il y a d'autres, les PFAS, d'autres produits.
Les PFAS, c'est quoi ?
Sont des pesticides.
Ah,
les PFAS.
Ah, oui, d'accord.
Les
polluants éternels.
Voilà.
D'accord.
Les polluants éternels et qui sont.
Je crois qu'il y en avait un autre qui m'avait échappé.
C'est des polluants éternels qui posent le problème d'être présents. On l'a vu dans les biberons qui ont été retirés. Et l'INSERM est engagé dans la recherche sur toutes les expositions, dont le chlordécone. Sur le chlordécone avec une équipe spécifique en Guadeloupe, mais aussi toutes les expositions. D'ailleurs, nous avons un programme d'impulsion qui s'appelle Exposome et Santé. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et dans lequel on peut dire que l'INSERM est moteur dans la recherche à la fois française mais aussi européenne. C'est pour nous un enjeu sociétal majeur d'être capable de répondre à ces questions d'exposition et de risques pour la santé.
Merci infiniment, professeur Didier Samuel, d'être venu nous parler aujourd'hui recherche et également menaces qui pèsent sur cette recherche et tout ce qu'il faut faire pour qu'elle puisse continuer à être compétitive et que le progrès médical puisse servir à tous les patients. Merci beaucoup. Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde.